Bienvenue sur Indie Horrorlist pour la suite de Powers in the Dark. Dans l'épisode précédent, Morgan s'est entretenu avec son client, Umay Chopra, qui lui a raconté comment il avait tué le héros du quartier, Boom Boom Tonight. Mais certains faits font penser à Morgan qu'il s'agit peut-être d'un coup monté. L'avocat se met donc en quête de preuves. Il est 9h du matin, sur une petite place tranquille de la borne West 1, où un food truck embaume l'air d'épices orientales, Morgan va interroger les parents d'Umesh. Donc tu te retrouves devant ce food truck qui s'appelle glorieusement Maison Mumbai. Et donc les parents du jeune Umesh Chopra te regardent donc une fois plus. Tu vois celle que tu penses être sa mère, donc une dame relativement dans la soixantaine, bien marquée par le temps, qui s'est mise à pleurer quand tu as parlé de son fils. Et tu vois l'homme qui est aussi derrière le comptoir dans le food truck, qui lui aussi doit avoir peut-être un peu plus que la soixantaine bien passée, avec une grosse moustache très brune et très fournie, et qui te regarde un peu avec hésitation quand tu as parlé de son fils, et qui probablement attend que tu dises autre chose. Et donc il s'est un peu dans l'attente.
Bonjour, donc je suis Morgan Girard, je suis l'avocat de votre fils, et je voudrais améliorer le dossier qui est actuellement en état pour lui donner des meilleures chances de poursuivre une vie décente.
Donc tu vois, tous les deux, ils se regardent, ils savent pas trop comment répondre. Et puis, le mari fait un signe de tête à sa femme et descend du food truck. Et tandis que sa femme continue à s'affairer derrière. Donc c'est 9h et quelques du matin, donc on s'entend qu'ils n'ont pas 2 tonnes de clients, mais ils ont deux jeunes qui sont assis là et qui mangent un truc. Donc l'homme s'approche de toi et puis... « Bonjour, monsieur », il te dit avec un très très bon français. « Merci pour ce que vous faites pour notre fils. Je pense que je vois rien d'autre à dire. Est-ce que vous avez faim ?»«
Non, ça va aller, je vous remercie. Peut-être un peu plus tard, je reviendrai à un autre moment de la journée ou un peu plus tard prendre un de vos repas. Je voudrais juste un peu... Je sais que c'est le début de la journée, donc vous avez encore un peu de disponibilité. J'aimerais que vous, votre femme et votre fille, vous m'accordiez un peu de temps pour parler de votre fils et de ce qui a pu le conduire dans cette situation-là, afin de trouver les éléments qui permettront de trouver une issue favorable.
Oh, vous savez, ma femme, elle a été très perturbée par ça. Je ne pense pas qu'elle soit capable de vous dire quoi que ce soit, mais asseyez-vous. Puis il se retourne et il regarde autour de lui et il dit « Ah, mais elle n'est pas là. Donc sa fille n'est pas là. » Donc il reprend et dit « Non, elle n'est pas là, elle est probablement partie en livraison ou aller chercher quelque chose. Maintenant que Umesh est plus là, on a besoin de qu'elle s'en occupe, quoi. »
Et est-ce que c'est OK pour attendre qu'elle revienne et discuter avec vous ce matin, ou préférez que je repasse à notre moment de la journée ?
Non, mais nous pouvons parler maintenant. Vous accepterez quand même un peu de thé, un chai ?
Oui, merci. Avec la pointe de lait, s'il vous plaît.
Donc, il dit quelque chose ouais. Tu penses que c'est... de l'ourdou, mais ou du lindi, mais tu es pas convaincu. En tout cas, il parle dans probablement sa langue natale ou une langue qu'il parle, et tu vois que son épouse fait un signe de tête derrière le truc et commence à mettre une bouilloire, à allumer une bouilloire. Tu sais, les bouilloires électriques où tu mets de l'eau et puis t'appuies sur un bouton et ça commence à bouillir. Donc commence à mettre de l'eau à chauffer, puis vous pouvez commencer à parler, puis rapidement 5 minutes plus tard, tu verras que qui se lèvera pour aller chercher une sorte de plateau assez joli quand même. C'est pas des trucs en plastique, quoi. C'est un peu en métal, assez un peu ciselé, puis avec 2 tasses de chai dessus. Et puis tu vois que la tienne, elle a un peu de lait dedans, comme tu l'as demandé. Pour être honnête, je sais pas quoi vous dire. Notre fils, il a jamais été comme ça. Il a toujours été un garçon exemplaire. Je sais pas.
En gros, un objectif, c'est de parler avec eux pour essayer de savoir les éléments de la soirée ou autre, sans évoquer ce qu'il avait évoqué, que c'était la raison qu'il avait évoqué, que c'était par rapport à une offense à sa sœur. Donc ça, je vais pas l'évoquer, bien sûr, là. Ça serait un moment juste avec elle. Là, c'est plutôt avec eux deux, de ce qu'ils peuvent dire de la soirée, enfin, de la journée, soirée, de quelques éléments. Et l'autre chose, c'est autour de Boom Boom Tonight ou d'autres... corps de police qui pourrait leur faire de la pression sur le quotidien, pour leur fonctionnement ou autre, puisqu'il avait aussi laissé penser qu'il y avait des choses comme c'est des on va dire des immigrés, ou en tout cas, ce qui est un peu bizarre, une fois que t'es dans les tubes ou t'es dans un monde clos, les gens rentrent pas comme ça, de toute façon, une fois que t'es là, c'est un peu, ouais. Donc en gros, c'est plus autour de ces points-là que j'aimerais les questionner. Donc après, à voir comment tu veux qu'on gère ça, mais mon objectif, c'est d'avoir des éléments.
Ben, on va faire un roleplay, puis quand tu auras assez parlé, je te ferai faire un jeu. Mais mieux tu parleras, plus le jeu sera facile. Je te donnerai un dé supplémentaire si tu t'en sors très très bien, ou un dé de malus si tu t'en sors très mal.
D'accord. En gros, mon idée, c'est un peu quelque part, si je me trompe pas, c'est la partie recueillir des informations. Et c'est comment je peux découvrir des éléments qui iraient dans le sens, soit qui sont sous pression et donc qui servent de bouc émissaire, pas de bouc émissaire, mais de moyen de pression pour que Umesh cède, soit que les éléments qu'ils apportent dans la discussion confirment bien le sentiment que c'est plutôt... Umesh est vraiment pas la personne qui serait capable de faire ça, quoi, et donc c'est autre chose, quoi. Donc voilà, en faisant roleplay, donc... que pouvez-vous me dire de la soirée où les faits ont lieu, où était Umesh, qu'est-ce que vous savez de son trajet? Et l'autre chose que j'aimerais avoir, je sais que votre situation n'est pas forcément facile, on sait que dans les tubes, on est de plus en plus contraint et que votre communauté ou comme d'autres communautés sont un peu des fois mises sous pression par certains services. Donc je voulais savoir comment était votre situation, à la fois financière, de sécurité, ou autre, et s'il y avait des éléments que vous voudriez porter à mon attention.
Tu vois qu'il regarde avec un air un peu circonspect.
Attends, juste avant de finir le roleplay, juste avant de finir le roleplay que tu redémarres, pour cette partie-là, j'aimerais utiliser un flashback.
Ah !
Parce que ce que j'aimerais, c'est avoir dit, puisqu'on sait que c'était une communauté d'immigrés, que j'étais un avocat de la défense pour les différents dommages collatéraux et tout, donc ce que j'aimerais, c'est pouvoir, dans ce flashback, enfin, je sais pas si c'est un flashback ou pas, mais l'idée, c'est de me rappeler des éléments sur leur communauté et tout ça, et que j'aurais travaillé pour eux à un moment donné. Et donc, pouvoir utiliser ce souvenir pour avoir, en gros, tisser des liens que, tu vois, ils se sentent vraiment en confiance, quoi. Donc, par exemple, imaginons que cette communauté-là, elle a été un jour dans un des dossiers que j'ai suivi. Et donc, j'ai pu lier, professionnellement, quoi, une relation avec leur chef de communauté, ou plutôt le gars qui représente un peu cette communauté-là un peu plus. Et donc, je peux parler dans mes exemples par rapport à la pression, dire, ben voyez, à telle époque, il y avait eu votre machin, il s'était passé ça, toi. Donc, tu vas faire des liens avec mon intégrité et leur communauté, quoi.
Ok, super. Alors, quand tu parles de communauté, c'est un peu complexe, parce que t'as pas forcément connaissance qu'il y a une communauté... indienne si imposante ou qui vivent au sein d'une communauté. En revanche, ce que tu sais, c'est que parce que tu l'as lu sur le dossier, tu sais que la famille Chopra, donc qui inclut les parents, les enfants et puis peut-être d'autres personnes, habite dans des cités HLM au nord de la borne ouest 1 qui s'appelle la cité des sols. Et disons que c'est pas une cité à problème comme les cités à Marseille, de Marseille Nord. Mais c'est peut-être un des endroits les plus compliqués côté social, etc. Pour la simple et bonne raison, c'est parce que probablement même avant que le bouclier soit mis en place, c'était déjà des sortes de cités ghetto où en fait ils mettaient tous les étrangers, les populations qui n'étaient pas forcément assez aisées. Donc en fait ils ont créé donc la ville ou le quartier. Ou la borne, en l'occurrence, parce que c'est plus local, hein, ça reste quand même la borne ouest 1. La borne a une sorte de plan urbain où ils ont décidé de regrouper plusieurs minorités ensemble, et des minorités qui n'étaient pas forcément très riches. Et donc du coup, ça a créé cette espèce de zone de tension naturelle avec les autorités, avec la ville, avec ça. Donc peut-être que tu aurais pu intervenir dans un cas qui impliquait quelqu'un de la cité des sols.
Ouais, tout à fait, ouais.
Mais à ta connaissance, il n'y a pas forcément une communauté indienne, tu vois, ou tu sais, un truc très, très proche. Même en l'occurrence, à ta connaissance, il n'y a pas tant que ça de communauté indienne dans les tubes, en tant que telle. Donc,
non, mais après, comme ce que tu disais, vu qu'il vit dans une cité, il doit y avoir des associations de quartier, un truc comme ça, et j'ai pu très bien traiter un dossier qui impliquait cette association de quartier, quoi.
Voilà. Donc, Sauvage Back, je pense que c'est pas la fin du monde. Ça va juste te coûter un point de stress.
Ok, très bien. Ouais.
Et alors, ce serait quoi, alors, à ton avis, comme, comme attribut que tu pourrais lancer?
C'est socialiser, hein.
Ok. Donc, on va dire contrôler standard.
Et donc là, je lance. J'ai deux, donc je lance deux dés.
Voilà.
Et on regarde ce qui se passe. Allez, les premiers jets.
Allez.
C'est 5 le meilleur dé. 5. Réussite mitigée.
Donc, en fait, tu te souviens que tu as travaillé en coordination avec la Maison des Jeunes de la borne Ouest 1, Nord. Et toi qui fais partie de l'étuve, tu sais que la Maison des Jeunes, comme on les appelle, en fait, il y en a beaucoup. Elles sont réparties sur l'ensemble du quartier. Et toutes ces Maisons des Jeunes-là, elles ont une particularité. C'est qu'il y a un hyper dominant qui est un peu le sorte de protecteur grand frère du quartier. Et son rôle, c'est une sorte d'éducateur spécialisé, mais qui utilise ses pouvoirs de hyper, qui sont peut-être un peu plus extraordinaires que la normale, peut-être, dépendamment de la zone. Et donc, tu as déjà rencontré ce hyper. Donc, en l'occurrence, il s'appelle Luminon.
Luminon. Et juste pour clarifier ce que tu m'as dit, c'est un hyper pour toutes les maisons des jeunes ou c'est chaque maison des jeunes a son hyper?
Chaque maison des jeunes a son hyper. C'est une sorte de réseau de maisons des jeunes, mais qui est au niveau de l'ensemble du quartier. C'est pas au niveau de, mais chaque borne a ses maisons des jeunes, mais c'est une sorte de réseau d'entraide de maisons des jeunes.
Oui, oui, c'est clair. Les maisons des jeunes, elles se construisent et pour être viables et efficaces, elles élisent ou elles ont un hyper, voilà.
C'est ça. Chaque maison des jeunes du quartier, de l'étude, donc de tout le quartier, donc dans toutes les bornes du quartier, il y a une ou plusieurs maisons des jeunes. Et chaque maison des jeunes est connue pour avoir un hyper qu'on appelle une vigie. On les appelle les vigies des bornes.
Ok.
Donc tu fais du name dropping avec Lumino. Donc comment tu approches son nom? Comment tu le mentionnes?
Ben quand je lui évoque le fait des éléments qui peuvent aider, je lui dis pensez bien à tous les dossiers parce que quand j'avais travaillé avec Luminon sur telle affaire, grâce à tel élément et tel élément, voilà, on avait pu démontrer que ce groupe de jeunes n'avait pas été impliqué et s'avait pu libérer. La police ne les a plus embêtés tout derrière. Enfin, j'essaie de montrer que quand on avait travaillé, quoi, en ayant cherché des éléments qui en delà les apparences, quoi, puisqu'on a tendance des fois à pousser les apparences sur une personne, quoi.
Ok. Étant donné que tu as fait une réussite mitigée, donc tu vois que il reconnaît le nom, et donc ça te donne un peu plus de poids dans ton argumentation. Ceci dit, peut-être qu'il connaît pas bien la situation, ou etc. Donc ça n'a pas forcément un impact super fort sur ce qu'il va raconter. Ça a moins d'impact que ce que tu t'attendais, quoi.
Ok.
Et donc il te dit que Umesh faisait ses livraisons ce soir-là, comme tous les soirs, où il travaillait pour le food truck, pour ses parents. Et puis, il avait un carnet de livraison, puis il faisait ses livraisons sur sa mobilette. Il se souvient pas particulièrement que c'était une soirée très chargée en tant que telle, en termes de livraison ou en termes de clients. Il te dit que ça varie en fonction des humeurs des gens. Mais en gros, il te dit qu'il n'y a rien eu de spécial, quoi.
Donc on a au moins minima toutes les adresses de livraison de cette soirée-là pour savoir dans quel quartier il a été, à quel endroit, voir s'il avait pu arriver à proximité de la zone ou pas, quoi. S'il l'a fait durant son temps de service ou pas, quoi.
Oui.
Bref, je récupère ces infos-là, ouais, comme ça. Ouais.
Ok. Il n'y a pas de problème. Il te dit qu'il va te les que sa fille te les textera dans la soirée.
Mm-hmm.
Et puis donc tu finis cette conversation puis il te regarde d'un air intense et tu vois que sa femme, même si elle s'affaire quand même pas mal, son épouse, même si elle s'affaire pas mal derrière le camion, tu vois que à un moment, une fois que t'as fini cette conversation, il te demande mais vous pensez que vous allez pouvoir faire quelque chose pour Umesh?
Je ferai tout ce qui est possible pour et j'ai besoin d'avoir des éléments pour cela.
Mais concrètement, ça veut dire que vous allez le sauver ou pas?
Si je peux prouver que dans les éléments même que lui a évoqués, il n'y a rien de concordant avec la possibilité d'avoir exécuté le geste, on devrait pouvoir le sortir de là.
Mais il a avoué, son sort n'est pas déjà... C'est pas comme ça que marche la justice française?
Alors, oui et non, avouer c'est bien, mais avouer quelque chose qu'on n'ait pas été en mesure de faire, c'est juste, on peut se dire que ça a été soumis à la pression, au stress, et voilà.
Au stress? Au stress de quoi?
Ça peut être plein de raisons, madame. Vous savez... vous savez, avec les questions, les enjeux, d'être interrogé, on peut être plus ou moins fragilisé et se dire, bah, pour arrêter, bah, je vais leur dire, oui, je l'ai fait, voilà quoi.
Ah, la pression de la police.
La pression de la situation, oui. Pourquoi ? Vous pensez qu'il y a d'autres raisons qui pourraient avoir fait que si Umesh ne l'avait pas fait, c'est quand même déclaré coupable ? Et je le regarde très intensément quand il fait ça pour voir si je décifère dans son regard s'il a l'air d'avoir d'autres idées derrière. S'il en gros, on m'a mis un pistolet sur la tempe pour que je dise à mon fils « Oui, porte-toi coupable !»
Alors, il te fait un geste comme s'il ne voyait rien, mais rien ne t'empêche de faire un... Ben là, je pense que tu peux faire un petit test pour ça.
Oui, ça serait quoi ? C'est investiguer ? Ou non, ça serait pas investiguer, parce que c'est plutôt de...
Plutôt une compétence sociale.
Ben, c'est socialiser, alors.
Socialiser ? Allez, si tu penses que c'est socialiser, on va faire socialiser.
Moi, ça me... De toute façon, c'est toujours en train de parler et de regarder ses gestes, donc ouais. Ben, j'ai toujours que deux, c'est toujours pareil.
Je pense que c'est plutôt investiguer, parce que si tu fais pas lui parler, t'essayes de deviner ce qu'il pense, ou de faire tomber le masque, donc...
Ok, donc quand t'as rien à investiguer, c'est un dé, c'est ça ? Ah non, c'est 2D et tu gardes le moins bon.
Quand t'as rien, tu prends 2D et tu prends le plus bas. Mais tu peux prendre du stress pour rajouter un dé. Ou sinon, je peux te proposer une contrepartie. Mais la contrepartie, ce sera, il va te dire quelque chose, mais après, il va complètement se renfermer et tu vas devoir partir parce qu'aucun des deux ne voudra te parler pour le moment.
Ouais, je l'aurais un peu offensé, quoi.
Voilà.
Et ça me coûte pas de stress.
Ça te coûte pas de stress. Mais ça va se passer quel que soit le résultat de ton jet, quoi.
Ouais, ça va. Parce que de toute façon, la fille est pas là, il faut la voir plus tard, donc ça peut être coupé court, et voilà, très bien. Donc là, ça marche comment ? Je regagne un dé de plus ?
Donc là, maintenant, t'as un dé.
Un seul dé, mais pas de malus, ok.
Et je veux dire que c'est désespéré, effet standard.
J'ai fait 4.
Ok, donc 4, c'est une réussite mitigée.
Ouais.
Tu décèles que même si sous son air qu'il essaye d'être le plus placide, tu sais, la poker face, tu es totalement convaincu qu'il te dit même pas la moitié de ce qu'il pense.
Super.
Et peut-être que tu lui fais la réflexion de manière peut-être pas forcément super adroite, et là, le gars vraiment s'offense. Et s'il monte sur ce grand chevaux, et vous me traitez de menteur, comment osez-vous venir chez moi ? Et donc, tu vois ce type de réaction très... Ouais. Très anormal, parce qu'il avait une tonne très, très humble, etc. Puis là, tu l'as juste, c'est comme si tu poke, et puis tout d'un coup, il part en flamme, quoi.
Ok.
Et puis, avec un grand air, ou très, très théâtral, il se lève et il te demande de quitter sur le champ, son restaurant, et t'en aller.
Et donc là, je me lève et je lui dis, bien, je pars. Par contre, donc, je laisse ma carte. Et pour pas vous importuner, vous direz à votre fille de passer à cette adresse-là pour donner les éléments, s'il vous plaît, que je puisse aussi discuter avec elle. Et je pars.
Tu vois qu'il regarde la carte et il dit rien. Là. Tu vois qu'il a même la bouche qui tremble un peu de... Tu décèles clairement que c'est quelqu'un qui est très humble, mais qui est très fier. Je veux dire, c'est probablement un de ses traits de caractère. Et t'as dû appuyer sur le mauvais bouton, puis ça l'a fait partir au quart de tour, quoi.
Fait. Ok.
Donc voilà, et donc c'était le food truck. Disons qu'il est 11h du matin, tu repars, que fais-tu ?
Donc là, si je fais un point entre guillemets des différents éléments, en fait c'est comme dans la foulée quoi. En gros, on est toujours pareil en fait, c'est toujours le mobile, l'opportunité. Si on regarde l'opportunité, on est l'histoire du taser, d'être sur place et le coup de téléphone qui dit qu'il était dans le secteur. Pour moi, il y a ce point-là. Et en fait, le mobile, donc toujours l'histoire de cette sœur ou pas, ou l'histoire de la pression de... Enfin, en fait, qu'est-ce qui aurait pu pousser quelqu'un à vouloir éliminer BBT ? Et on a aussi Patogi, son pote qui était là et qui l'a laissé... Enfin, ils sont séparés et tout. Donc, le mobile, c'est pourquoi s'en prendre à ce flic-là, même s'il y avait un peu de violence ou autre. Il y a deux cas de figure, soit quelqu'un qui je pars du principe que lui l'a fait, faut essayer de vraiment comprendre ce qu'il aurait pu faire à sa sœur. Si je pars du principe qu'il est carrément pas possible qu'il l'ait fait, comme on a dit, le gars il faisait 450 kilos, il faut le traîner sur le truc. Donc on lui demande de se déclarer, donc pareil, est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris quelque chose sur sa sœur ou sur sa famille, ou ça, mais en tout cas si on veut faire ça, c'est qu'on voulait se débarrasser de BBT. Donc pourquoi on veut se débarrasser de gars-là ? Qu'est-ce qu'il y a de pas net dans son truc, sachant qu'il était censé être une star ? Enfin une star. Il avait une certaine célébrité pour ce qu'il avait fait comme acte. Donc, il y a certainement un complot. Et mon idée, c'est pas forcément de trouver les responsables, c'est juste de démontrer, parce que je suis avocat, je suis pas le détective. Mon but, c'est de montrer que, avec les éléments qu'on a, il n'y a rien qui veut vraiment prouver qu'à cette heure-là, Umesh est capable, en capacité de taser le gars, de le traîner et de le noyer, quoi. Donc il faut trouver des éléments qui mettent le doute pour que lui soit pas plus que ça, quoi.
Surtout que, étant donné que t'es déjà que t'es sur la dernière ligne droite avant le procès, donc tu sais que là maintenant, la seule option, à moins que tu trouves un truc qui est tellement flagrant que tu sois capable de demander au juge de déclencher d'autres enquêtes, mais là c'est bouclé, quoi. Là, une fois de plus, la plupart du temps, et ça c'est ton expérience. Alors t'as jamais fait de pénal, le pénal c'est pas ton truc, mais c'est ton milieu, ça reste quand même ton milieu. Tu sais que la plupart du temps, juste avant les 2 ou 3 semaines avant le procès, étant donné que l'instruction a déjà été complétée, elle est fermée, et donc il n'y a plus de juge d'instruction, ça a été transféré au juge des assises. La plupart du temps, les avocats du pénal, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des témoins, qu'ils préparent les témoins pour les appeler pendant le procès et pour faire en sorte de créer exactement ce que tu dis, pour créer ce doute qui va faire que il pourra pas être accusé coupable parce que ce sera pas évident. Alors ce qui joue dans ta défaveur, bien évidemment, c'est que il est coupable, il a dit qu'il était coupable. Donc tu vas contre-courant de ton propre client. Donc ça va être très dur à défendre en face de n'importe quel juré. Parce que quelqu'un dit oui, je l'ai fait, et toi tu dis ouais, je travaille pour lui, mais en fait non, il l'a pas fait. Donc la première question, ça va être oui, mais pourquoi il dit qu'il l'a fait? Et c'est là où ça commence à être compliqué.
Ah, c'est clair. C'est pour ça que là, je cherche juste en tant qu'avocat les éléments qui peuvent générer le doute. Et après, ça mettra normalement suffisamment de poids pour soit donner plus de temps à l'enquête, soit par doute. Le principe de la loi française, même à IPRW dans le futur, c'est que tant que si t'as pas une preuve formelle, sur un doute, tu peux pas accuser quelqu'un, quoi.
Tu étais en pleine réflexion en train de conduire, je dirais, en repartant de... Est-ce que, d'ailleurs, comment tu te déplaces en ville? Est-ce que tu conduis les transports en commun? Tu marches? Le vélo?
Non. C'est soit il se déplace en véhicule, soit en transport en commun. Donc, soit il a son véhicule. Je sais pas quels sont les modes de trucs de... dans IPRW, mais...
Eh bien, ça dépend. Tu pourrais avoir un vrai véhicule, comme une voiture, ou... Alors, les voitures, elles flottent, hein. Il n'y a pas de roues dans IPRW, donc c'est des espèces d'hydroglisseurs ou d'aéroglisseurs, mais ça reste quand même des voitures. Sinon, il y a les transports en commun. Là, t'es pas dans un quartier qui est très central, mais tu sais que quand tu te rapproches plus des quartiers centraux, c'est même pas des transports en commun. En fait, c'est des espèces de plaques magnétisées. Puis tu te mets sur la plaque et tu as juste à penser où c'est que tu veux aller, puis la plaque décolle et puis elle t'emmène où tu veux, quoi.
Ah non, je vois trop... Tu connais la série... attends, je crois que ça s'appelle L'avocat Lincoln, un truc comme ça. En fait, c'est une série où tu fais donc un avocat qui défend ses clients et tout ça. Et en fait, le style, c'est l'avocat Lincoln, un truc comme ça, parce qu'en fait, il est toujours dans sa vieille voiture Lincoln et c'est son là où il est un chauffeur, bien sûr. C'est ce qui paye, il y a des relations avec ça. Et puis, il étudie ses dossiers dans les voitures pour plus jamais perdre de temps, quoi. En fait, je me verrais bien faire ce truc-là, tu vois. Donc, vu qu'on est un truc moderne avec autopilote ou machin, en fait, j'ai un véhicule et je me déplace avec le véhicule. Et dedans, je continue à travailler, quoi. D'où je peux faire mes réflexions, tout ça, sans prendre de risques.
D'accord, donc en fait, c'est un véhicule autonome. C'est comme si tu avais un taxi invisible, en fait.
C'est ça.
Ok, c'est super. Est-ce qu'il a un nom, ton véhicule autonome?
Colombe. Colombe.
Colombe.
Colombe, parce que c'est l'oiseau qui amène la paix. Donc,
Aucun rapport avec l'inspecteur Colombo, c'est ça?
Si, il y avait un peu, je me suis fait un petit peu.
Ok, Colombe. Très bien. Donc, Colombe te déplace. Et disons que c'est pas forcément une intelligence, je dirais, c'est un véhicule autonome, mais ça veut pas dire qu'elle te parle, elle te fait la conversation et tout, c'est un véhicule.
Non, c'est un taxi,
il t'amène aller de là à là,
voilà,
et
voilà,
puis,
c'est ça.
Et puis, donc tu es derrière en train de réfléchir à tout ça, ou à prendre des notes sur l'entretien avec la famille Chopra, les parents Chopra, quand ton téléphone sonne, et tu vois le numéro qui est affiché dit « Palais de justice ». L'entretien avec les parents Chopra n'a pas été aussi productif comme Morgane le pensait. Morgan en sort avec encore plus de questions que de réponses. Quelle va être sa prochaine étape? Vous l'apprendrez dans le prochain épisode. D'ici là, envoyez-nous votre avis sur cette nouvelle campagne sur les réseaux sociaux, Blue Sky, Mastodon, YouTube, ou sur notre site web, endurolis.net. Cela nous ferait vraiment plaisir d'avoir votre feedback. Le jeu de rôle à deux, tout le monde peut en faire. C'est une expérience de JDR à la fois familière et différente, alors laissez-vous tenter. Et surtout, souvenez-vous, si vous y prenez du plaisir, c'est que ça marche. Allez, salut !